Bonjour, bonjour Yves, au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition en rappelant ou en apprenant à ceux qui nous sont fidèles ou à ceux qui nous découvrent que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale, parfois probable, parfois moins convaincante, les petites images qui bougent de préférence sur de grands écrans depuis maintenant un peu plus d'un siècle. Et ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons égrener quelques films qui voient de troublantes mutations, d'effrayantes transformations comme le cinéma fantastique sait nous en offrir. Alors, bien évidemment, vous pensez aux vampires, vous pensez à d'autres genres de créatures. On va essayer d'être un peu différent à 24 notes secondes. En musique, bien sûr, c'est notre image de marque, si l'on peut parler d'image de marque à la radio. Et nous allons commencer tout de suite par un morceau dont je préviens les âmes sensibles qu'il est, comment dire, un peu difficile musicalement. Disons que le compositeur de cette musique, John Corigliano, est plus connu pour ses partitions de musique dites contemporaines. J'ai toujours bien aimé toute la musique qu'on produit maintenant est contemporaine, mais dès que vous dites musique contemporaine, vous pensez à Pierre Boulez, vous pensez à John Cage, vous pensez à quelques autres. Eh bien, ma foi, John Corigliano n'est pas loin de cela, et cela produisait un effet tout à fait inquiétant et parfaitement réussi dans le film que John Corigliano avait composé la musique, pour lequel, pardonnez-moi, il avait composé la musique, en l'espèce un film de Ken Russell, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, un réalisateur anglais plus connu pour ses biopics de Leeds ou de Malheur ou de quelques autres, que pour ce film intitulé en français « Au-delà du réel » et qui, en anglais, et c'était plus approprié, s'appelait plus simplement « Altered State », c'est-à-dire « État altéré ». Et de fait, le héros du film, joué par un William Hurt, pardonnez-moi, lapsus était compréhensible, non pas John, mais un William Hurt, alors plus ou moins débutant, eh bien, le héros du film goûtait à ces champignons auxquels d'autres ont goûté avant lui, comme Antonin Artaud, ou après lui, ou presque comme Carlos Castaneda, et ma foi, ça le transformait, comment dire, dans des états que seule la vision du film, si tant est qu'on puisse encore le voir, je n'ignore s'il est en DVD, que seule la vision du film pourrait vous laisser entrevoir. Alors bien évidemment, nous étions dans les années 80 et les effets spéciaux n'étaient pas aussi réussi, mais moins numérique que ceux d'aujourd'hui. Ma foi, le film faisait son petit effet et ma foi, la musique de John Corigliano n'y était pas pour rien. Aussi bien, nous allons en écouter un extrait. Attention, c'est entièrement Altered States sur Divergence FM. Ah, c'est sûr, on aime ou on n'aime pas, et vous êtes bien sur Divergence FM, et non pas sur France Musique, quelque part au milieu de la nuit. Un extrait de la bande originale du film de Ken Russell, Altered States, in French, au-delà du réel, une musique de John Corigliano. En l'espèce, le Mind Title and First Hallucination. Je pense que mon anglais est suffisamment compréhensible et mon accent des plus goûteux. Bref, une partition radicale, on peut le dire. Les mots me manquent, c'est parfois le principe de la musique, qu'on ne puisse pas la décrire. Écrire en mots, une partition absolument radicale pour un film qu'il était peut-être un peu moins. Un de ces cas, et ils ne sont pas si exceptionnels, où les musiques, disons-nous, ne méritent pas les films qu'elles servent, ou l'inverse. Nous sommes toujours dans 24 notes secondes et nous allons passer à une autre transformation absolument monstrueuse pour un film de David Cronenberg tourné en 1986, intitulé The Fly in English, La Mouche en français, un film dont certainement vous connaissez l'argument puisqu'il s'agissait de la transformation progressive d'un chercheur qui travaille, on va dire, sur la transmutation d'électrons ou que sais-je encore, en tout cas, qui se trouve bien malgré lui embarqué dans une petite capsule avec une mouche et qui, au bout de manipulations génétiques tout à fait monstrueuses, se transforme en une créature mi-mouche, mi-homme, ce qui n'est pas du plus bel effet, le tout sous les yeux horrifiés de la délicieuse Gina Davis. Alors ce film de David Cronenberg était lui-même le remake d'un grand film d'épouvante des années 60, réalisé par Kurt Neumann en 1958 et qui à l'époque s'appelait La Mouche Noire. Je ne sais pas s'il y a des mouches rouges, bleues, vertes. En l'espèce, en tout cas, ça s'appelait La Mouche Noire à l'époque. Et l'un des rôles principaux de ce film était tenu par Vincent Price. À l'époque, et comme je le disais pour Altered States, il n'y a pas si longtemps, les effets spéciaux en 1958 n'étaient pas aussi perfectionnés qu'ils pouvaient l'être en 1986. Et aujourd'hui, que dire ? Mais en tout cas, le film faisait son effet. Et en plus, il était signé de David Cronenberg sur un scénario tout à fait intelligent qui mêlait à une histoire qui aurait pu être de pure épouvante, eh bien une méditation sur la génétique, la sexualité et qu'est-ce qu'être humain et qu'est-ce qu'être animal. Le tout, ma foi, a été parfaitement réussi, on ne pourra pas en dire autant de La Mouche 2 qui, évidemment, succès aidant, fut tourné 2 années après, mais évidemment pas par David Cronenberg, et qui était signé de l'auteur des maquillages du présent film, en l'espèce Chris Wallace. Ma foi, les maquillages du second film étaient plutôt bienvenus, mais par contre, pour le reste, c'est bien, c'était une bouse. Nous allons écouter un extrait donc de la bande originale de ce film de David Cronenberg avec son compositeur attitré, en l'espèce Howard Shore, qui en 1986 n'était pas encore l'ultra célébrissime compositeur de la trilogie du Seigneur des Anneaux, qui reste pour autant fidèle à David Cronenberg des années plus tard et qui avait signé pour La Mouche une partition, ma foi, fort belle, dont je vous laisse écouter, mais là encore déconseillé aux oreilles sensibles, dont je vous laisse écouter un petit extrait dans 24 notes secondes. La puissante partition d'Howard Shore pour un film de David Cronenberg tourné en 1986, The Fly, La Mouche, une partition symphonique qui n'est pas sans évoquer celle du Seigneur des Anneaux qui, quelques années plus tard, assurera la célébrité, voire, je l'espère en tout cas pour lui, la fortune d'Howard Shore. Nous sommes toujours dans 24 notes secondes où nous évoquons toujours quelques transformations monstrueuses au cinéma et nous allons rester dans l'exercice du remake puisque la musique du film que je vais vous proposé dans quelques instants. En anglais, ça s'appelait Cat People, in French, La Féline. Ma foi, les deux titres sont plutôt bienvenus. Eh bien, ce film tourné en 1982 par Paul Schrader était lui-même d'un film tourné 40 ans auparavant par Jacques Tourneur, et non pas Jack Tourneur, puisqu'il s'agit bien d'un cinéaste français, le fils du célèbre réalisateur, en tout cas pour les cinéphiles, pour les autres, c'est moins sûr, Maurice Tourneur, tous les deux ayant pour particularité d'avoir fait une une brillante carrière française et ensuite une brillante carrière américaine, ce qui n'est pas donné à beaucoup de réalisateurs français, n'est-ce pas Jean-Pierre Jeunet ? En l'espèce, donc en 1942, eh bien, La Féline, qui avait été tournée pour un budget ridicule en moins de 21 jours, dépassa, le croiriez-vous, l'un des plus grands films de toute l'histoire du cinéma qui sortit sur les écrans cette année-là, le Citizen Kane d'Orson Welles. Et ce film, en plus, mettait en vedette une actrice française, Simone Simon, la délicieuse, la délicate Simone Simon, qui, ma foi, eut quelques ennuis après-guerre, il faut bien le reconnaître, et du coup, ne poursuivit pas sa carrière. En l'espèce, eh bien, l'histoire, et je pense que le titre du film est suffisamment évocateur pour le comprendre, eh bien, l'histoire évoque une malédiction où des jeunes femmes se transforment en panthères noires dès qu'elles sont amoureuses. Mais n'est-ce pas toujours le cas ? Il me semblait aussi. En 1982, eh bien, c'est Nastassia Kinski, la délicieuse aussi, Nastassia Kinski qui s'y colla. Et le réalisateur du film et son scénariste, Dewitt Bowden et Alan Ormsby, mêlèrent à cette histoire classique une histoire d'inceste avec, dans le rôle du frère maléfique de Nastassia, Malcolm McDowell, plus connu pour son rôle d'Orange Mécanique. Hélas, trop connu pour son rôle d'Orange Mécanique. Le résultat, comment dire, était beaucoup plus arty que celui de Jack Tourneur en 1942, mais il n'était pas parfois aussi convaincant. On pouvait quand même retenir dans des seconds rôles plutôt bienvenus John Hurt et la délicieuse Annette O'Toole. Délicieuse, elles le sont toutes. Et la musique de ce film était signée de Giorgio Moroder. Voilà encore un nom qui fleure bon les années 80 et qu'on n'entend plus guère peut-être dans les boîtes de nuit, mais ce sont des endroits que je ne fréquente guère, surtout les soirs de pleine lune, bien entendu, je plaisante. La musique de ce film, elle était signée Giorgio Moroder, mais il y avait à l'époque un jeune chanteur prometteur qui débutait. Alors je vais vous laisser reconnaître sa voix. Si vous la trouvez, vous aurez gagné le droit de continuer à écouter l'émission. Sinon, nous trouverons bien un arrangement, un extrait donc de la bande originale de Cat People, alias La Féline, un film de Paul Schrader tourné en 1982.
I wouldn't believe what I've been through. speechless heart that can never mend, these tears can never dry. A judgment made can never bend. See these eyes so green.
On est désolé, David, mais tu comprends le direct. Un extrait de la bande originale de La Féline, un film de Paul Schrader tourné en 1982. Et je suis sûr que vous avez reconnu la voix du jeune chanteur, je plaisantais bien sûr, qui interprétait Putting on the Fire with Gasoline, ou quelque chose d'approchant, mais peut-être un petit peu mieux. Un chanteur qui, à l'époque, en tout cas, donnait lieu à une plaisanterie de piche que je suis sans doute l'un des seuls à apprécier. Deux jeunes filles discutant ensemble, et l'une disant « Mais tu l'aimes vraiment, David ?» et l'autre répondant « Bah oui, pourquoi tu dis ça ?» Bref, ça ne fait rire que moi, mais ma foi, c'est bienvenu. Évidemment, c'était David Bowie. Vous l'avez compris, vous l'avez entendu, l'inimitable, l'indispensable. David, on t'aime. Peut-être pas forcément dans la bande originale de La Féline, mais en tout cas, on t'aime. Dans 24 notes secondes, eh bien, nous poursuivons notre paysage horrifique de transformation. Et nous allons cette fois écouter, alors c'est ça l'intérêt, je dirais, de cette émission que j'auto-promeux moi-même de Maître du Monde. L'intérêt de cette émission, c'est de s'essayer à des genres musicaux tout à fait différents. Vous allez pouvoir en juger en écoutant un extrait de la bande originale d'un film de Brian De Palma, tourné en 1976 et inspiré d'un roman de Stephen King, Carrie au bal du diable. En anglais, ça s'appelait tout simplement Carrie. Et ma foi, c'était plutôt mieux venu. Dans les rôles principaux de ce film, on retrouvait Sissy Spacek, absolument délicieux. Je regardais sa filmographie pour déplorer, regretter, me désespérer que Sissy Spacek, en 1976, toute fraîche débutante, ne soit pas devenue une des plus grandes actrices du cinéma hollywoodien des années 80-90, honte au cinéma hollywoodien. À ses côtés, on retrouvait Piper Laurie, Amy Irving et un jeune, mais alors très jeune, acteur qui, lui, par contre, allait faire parler de lui, puisqu'il s'agit de John Travolta. Mais oui, John Travolta jouait un petit rôle dans ce film et ma foi, eh bien, il faut croire que lui en tout cas avait été remarqué par les producteurs puisqu'il fit ensuite la carrière, puis la seconde carrière, merci Quentin Tarantino, que l'on connaît. Alors j'ai été assez bavard, on a déjà interrompu David pour ça, ne le soyons pas plus, on va écouter un extrait de cette bande originale, mais vous ne l'écouterez pas sans que je ne vous ai précisé qu'elle est signée de Pino Donaggio, qui composa à l'époque plusieurs musiques pour des films remarqués de Brian De Palma, ça s'appelle Carrie au bal du diable, Brian De Palma, tu l'as déjà dit, 1976 dans 24 notes secondes. Thank you. Des faux airs assumés d'Ennio Morricone pour la partition signée de Pino Donaggio de Carrie au bal du diable, un film de Brian De Palma tourné en 1976, avec lequel nous avons presque conclu cette émission de ce jour consacrée aux transformations monstrueuses. Et nous allons pour finir, ce n'est pas vraiment une transformation, mais disons qu'on va se faire un petit plaisir musical avec une bande originale bien connue, puisqu'hélas, elle a été repérée par tous ces publicitaires effrontés et que maintenant, elle sert à un peu tout, de la pâté pour chien, je dirais, jusqu'au parfum. Ma foi, les parfums, ce n'est pas malvenu. En l'espèce, il s'agit de la bande originale d'un film de Tim Burton tourné en 1990, qui réunissait dans les rôles principaux Johnny Depp, mais il y a Johnny Depp dans tous les rôles principaux de tous les films de Tim Burton, ou à peu près, Winona Ryder et Diane West. Ça s'appelait In English, Edward Scissorhands. En français, Édouard aux mains d'argent. Et c'était une sorte de conte, comme Tim Burton sait si bien les faire. Une sorte de conte où l'on voyait un inventeur joué par Vincent Price, déjà cité, l'un des grands acteurs du cinéma fantastique des années 80, qui inventait une créature, mais qui mourait avant de lui donner des mains à la place desquelles il avait des ciseaux très coupants. Le tout, ma foi, en tout cas, à mon goût, était un des meilleurs films de Tim Burton, un pur chef-d'œuvre de poésie, d'humour et de musique, comme vous allez pouvoir en juger. La partition était signée de Danny Elfman. Forcément, ça va vous rappeler quelque chose. Mais cette fois, c'est l'original et vous êtes bien sur 24 notes secondes.